Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois non pas un, ni deux, mais bien trois invités dans ce podcast. Céline Mérif, Jonathan Llorente et Maxime Flamand, les trois membres de la cellule d'analyse vidéo du Montpellier Hérault Sport Club, sont mes invités. Avec eux, nous avons abordé le quotidien du métier d'analyste vidéo, de l'analyse de l'adversaire, au respect des principes de jeu d'Olivier Dalloglio, en passant par les retours individuels, l'analyse en live et la formation pour devenir analyste. Nous avons également évoqué l'utilisation des nouvelles technologies et de la data au quotidien, ainsi que le travail avec les jeunes joueurs du MHSC qui oscille entre le groupe professionnel et la réserve. Voilà pour le résumé. Il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation très dense avec Céline Mérif, Maxime Flamand et Jonathan Llorente. Bonjour Céline Mérif, bonjour Maxime Flamand et bonjour Jonathan Llorente.
Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous les trois dans le podcast Prolongation. On ne change pas une question qui gagne, même dans un podcast à quatre, ce qui est inhabituel. On a l'habitude de toujours commencer par la même question. Est-ce que vous pouvez me raconter chacun votre tour, un match qui vous a marqué ? Alors ça peut être par un scénario, par un résultat, par une émotion particulière que vous avez pu ressentir, soit comme acteur donc dans vos différents postes, soit comme spectateur simplement dans un stade, téléspectateur devant même la télé, comme enfant, adolescent, adulte. Le choix est vraiment très très large. C'est un peu votre Madeleine de Proust et on va commencer par Selim du coup.
Alors moi, c'est un match de qualification pour la Champions League, donc de l'AG Auxerre, qui était mon club de cœur quand j'étais jeune, parce que je suis de la région iconaise. Donc en fait, c'est le match retour contre Zenit Saint-Pétersbourg que j'ai suivi en fait à la radio, parce que j'étais déjà arrivé dans ma nouvelle région ici à Montpellier. Et donc, je suivais le match. L'AG Auxerre perd le match aller 1-0 en Russie. Et donc, au match retour à la Baie des Champs, je suis ça sur RMC à la radio. Et donc, c'est la victoire de l'AG Auxerre qui s'impose 2-0 et qui se qualifie pour la Champions League. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que je ne voyais pas le match. J'ai écouté et j'ai vibré vraiment jusqu'au bout parce que c'était un match qui était quand même serré, qui m'a procuré des émotions particulières.
Eh ben, on partage quelque chose, Céline, puisque je suis originaire d'Auxerre. J'étais au stade ce jour-là contre le Zénit. J'étais au stade aussi en phase de groupe de Ligue des Champions contre Milan, l'Ajax et le Real. Donc, c'était moins bien en phase de groupe, mais en tout cas en termes de résultats, même si contre l'Ajax, Auxerre avait gagné. Mais c'est vrai que c'était un match assez dingue et une des dernières grosses ambiances, en tout cas au stade Abbé Deschamps, avant malheureusement la descente en Ligue 2. Jonathan, pour toi, quelle est ta Madeleine de Proust ?
Pour tout supporter du football français, ben, c'est le match de la victoire en Ligue des Champions de Marseille en 93. Jeune, j'étais supporter marseillais et ce match-là arrive le jour de mes 13 ans. Bon, ben, anniversaire à la maison, avec papa, maman, le gâteau et la cerise sur le gâteau, victoire de Marseille en finale. Et après, c'est pas par rapport au match, parce que bon, le match, il a été quand même stressant. Milan a dominé dans mes souvenirs, mais après, c'est par rapport à la fête qui a suivi, où après, on a pris la voiture, on est allé en ville, et il y avait tous ces gens dehors qui sautaient de capot en capot, que ça klaxonnait. Voilà, la grosse fête, même s'il y avait école le lendemain, voilà, on s'était couché tard.
Moi, tu n'es pas le premier à me parler de ce match, même des personnes qui n'ont pas grandi dans le sud ou dans la région marseillaise. C'est vrai que cette première victoire en Coupe d'Europe d'un club français signifiait quand même quelque chose d'assez énorme à l'époque, parce que l'équipe de France n'était pas championne du monde non plus, donc c'était vraiment, il y avait l'Euro 84 évidemment, mais ça avait une saveur particulière face au grand Milan AC, c'était vraiment quelque chose, on avait l'impression que ça y est, le football français avait atteint un petit peu le Graal européen.
Tout à fait. En plus, bon, moi, je suis né dans les années 80, 84, j'étais encore un peu jeune. Et vraiment, les premières grosses émotions, voilà, c'est dans les années 80, début des années 90, avec Marseille.
Et Maxime, quelle est ta Madeleine de Proust ?
Là, la question est très, très compliquée pour moi. Ça fait 10 jours que j'essaye de répondre à cette question hors antenne, mais c'est très compliqué de choisir un souvenir de foot. Enfin, comme mes collègues, ça fait... Enfin, moi, depuis mes 7 ans que je suis passionné de foot, donc je pourrais te citer un souvenir par radio, télé, stade. Si pour en choisir qu'un, je partirais sur le match qui nous fait monter quasiment avec Dijon. Je ne sais même plus en quelle année c'est, mais c'est à Clermont. Le scénario du match est assez fou. Et en fait, on est à 2-2 à la 87e minute, je crois. Et c'est Johan Rivière, un joueur qui a été blessé quasiment toute la saison de cette montée-là, qui nous délivre, et après il nous restait 6 journées pour marquer, il me semble, 1 ou 2 points. Et voilà, c'est le match qui nous envoie quasiment en Ligue 1. Et comme j'étais impliqué aussi, puisque j'étais déjà analyste vidéo à l'époque, et que ça conclut une aventure humaine qui avait débuté il y a 4 ans, mais en prépa de cette année-là, qui avait été vraiment une aventure humaine entre joueurs et staff, quelque chose de fort, et ça se conclut par une montée. Et ben voilà, comme on était aussi acteur de ce moment-là, c'est pour ça que je mets ce moment en avant, mais...
Il y en aurait beaucoup d'autres.
Ouais, j'aurais pu t'en citer 5 ou 10 très facilement.
Alors, vous êtes tous les trois dans la cellule d'analyse vidéo du MHSC. Avant même de parler de vos missions et de votre quotidien, il y a des analystes en herbe qui nous écoutent et qui peuvent se poser la question. Jonathan, on en a rapidement parlé quand on s'est eu au téléphone avant l'émission. Tu me disais qu'il n'y avait pas de formation à travers la Fédération française de football pour réussir à accéder à ce type de poste, ou en tout cas pour former les futurs analystes vidéo. Contrairement à d'autres membres de staff d'ailleurs, puisque les entraîneurs ont leur propre diplôme, puisque les entraîneurs de gardiens l'ont, la préparation physique est aussi concernée par ce type de diplôme, mais pas les analystes vidéo. Comment tu l'expliques ? Est-ce que tu expliques ça par le fait que c'est... Alors, j'ai pas envie de dire récent, ça dépend sur à quel curseur on met le côté récent, parce que ça fait quand même bien des années maintenant que ça existe, l'analyse vidéo au sein des staffs techniques. Mais comment tu expliques ce retard un petit peu à l'allumage en France sur la formation ?
Tout simplement, c'est un métier très récent, puisque avant, c'était plus des techniciens vidéo, ou alors c'était des entraîneurs adjoints qui en étaient en charge de collecter des images ou des vidéos. Une fois, on a échangé avec Michel Mézi qui, lui, nous disait, lui, il se tapait les matchs à la VHS, le temps de récupérer la VHS, etc. Ben, aujourd'hui, le métier, là, il n'a plus rien à voir avec ça. Donc, ce nouveau métier est pour l'instant le fruit de d'université ou de...
D'organismes privés.
D'organismes privés, voilà, cherchez le mot, merci, qui utilisent des anciens analystes ou des personnes qui ont des compétences dans ce domaine-là. Donc, la FEDE ne s'est pas penchée encore sur le sujet. Pour ce qui est du centre de formation, ça date d'à peine 3 ans. Il y a l'obligation d'avoir un analyste vidéo dans un centre de formation. Donc, c'est très, très récent. À savoir qu'après, les clubs de professionnels qui sont, on va dire, les tout premiers à avoir vraiment des analystes vidéo, eux n'ont pas de formation non plus à la LFP. Et c'est pas la Fédé qui gère le football professionnel, c'est la LFP. Donc on est entre deux en fait quelque part, parce que quand on va voir la Fédé, on nous dit ben non, vous êtes un club professionnel, donc c'est faut voir avec la LFP et la LFP n'a pas vocation à faire de formation. Donc c'est les universités il y a l'université de Rouen notamment, il y a l'université de Montpellier, il y a l'université à Créteil, l'UPEC. Voilà, il y a des universités qui ont construit des formations, même des masters maintenant. Au départ, c'était des DU. Il y a des masters. Il y a des masters qui mélangent aussi l'analyse du jeu et la data. Donc, ça fait pas mal de choses. Après, il y a des organismes privés où en un an ou en 6 mois, on peut avoir un diplôme. Il en existe même un sur une semaine avec l'Artfish. Chacun va où il veut, se forme comme il veut. Pour le moment.
Mais comment marche la reconnaissance des diplômes du coup? Parce que quand c'est un diplôme universitaire, c'est assez facile pour la reconnaissance du diplôme, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, peu importe. Si c'était lié aux organismes qui gèrent le football, fédération ou ligue football professionnel, ça serait assez facile aussi. Via un organisme privé, comment c'est reconnu ça, ces diplômes-là? Pas forcément. Parce qu'on peut le faire sur des organismes privés en France, à l'étranger. Il y a même des providers de data qui en proposent. Je pense à StatsBomb qui propose des formations aussi. Voilà. Mais derrière, même moi, si je voulais aujourd'hui, par exemple, qui ne fais pas du tout partie d'un staff technique, où je pourrais faire une formation StatsBomb. Il suffit d'avoir l'argent, de faire la formation, etc. Mais ça veut dire qu'on me mettrait au même niveau, quelque part, que quelqu'un qui fait partie d'un staff qui aurait fait le même diplôme, en fait, alors que bon, ce n'est pas vraiment la même chose.
Complètement. Mais en fait, aujourd'hui, on en est... Là, c'est que peu importe dans quel organisme ou quelle université tu te formes, tu peux travailler, tu as un diplôme. Nous, ce qu'on aimerait, c'est que la Fédé se penche sur ce cas-là et qu'on puisse avoir une formation comme il en existe pour les entraîneurs des gardiens, qu'il en existe pour le préparateur physique, avec des niveaux différents. Aujourd'hui, il y a plein d'étudiants qui arrivent sur le marché et en 6 mois, 1 an, c'est impossible qu'ils sachent faire ce que nous, on sait faire. Voilà, donc, c'est un peu pour protéger notre savoir-faire, nos compétences, et aussi pour légiférer et arrêter toute cette dérive, parce qu'il y a énormément de dérives. Dans les organismes privés, il y a des marchands de tapis. Hein, et c'est ça le gros souci aujourd'hui. Et du coup, qui recrute aujourd'hui, ben c'est nous, en fait, quelque part. Souvent, ben c'est quand on a besoin d'un analyste vidéo, eh ben, c'est la personne qui est là en poste qui va faire les entretiens, etc. Donc après, c'est chacun fait comme lui il ressent, selon les entretiens, s'il a accroché avec les étudiants, s'il avait déjà des stagiaires, voilà, et avec quel organisme il marche, il fonctionne, tout simplement.
Alors, il y a une chose qui est très intéressante avec tous les trois, c'est que le duo, jusque-là, est devenu un trio cet été, puisque Maxime, tu es le dernier arrivé, entre guillemets, tu es arrivé avec Olivier Dalloglio, quand Olivier Dalloglio a pris les rênes de l'équipe première. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est que d'un côté, Maxime, bah, tu as dû t'adapter au duo qui était déjà en place. Et de l'autre, bah, le duo, Selim et Jonathan, vous avez dû vous adapter aussi alors, à Maxime, mais aussi au principe de jeu du nouvel entraîneur. Donc, il y a une double adaptation, entre guillemets, selon de quel côté on se place. On va commencer du coup par Maxime. Quand tu arrives au MHSC, quels sont les enjeux immédiats pour toi, immédiatement, pour bien t'adapter? Parce que ce n'est pas forcément lié à Olivier Dalloglio, que tu connais déjà, pour le coup, où tu connais les principes de jeu, tu connais un petit peu tout ça, tu connais son mode de fonctionnement, son management, ce qu'il va demander aux joueurs, etc. Par contre, tu arrives dans un nouveau club avec une cellule qui est déjà en place. Et donc, toi, l'adaptation, elle est peut-être plutôt de ce côté-là.
C'est sûr, après, ça s'est fait déjà avant qu'on arrive, de par les séminaires, les différentes formations. On se connaît aussi entre analyse vidéo en France. On a une relation assez proche et assez saine, puisqu'on est obligé de s'entraider. Vu comme on le disait sur la question d'avant, au niveau des formations, on n'est pas forcément. Enfin, la Fédé ne reconnaît pas forcément les analystes, les formations non plus. Donc, c'est ces organismes privés, notamment le fournisseur de notre logiciel, qui regroupe et qui se regroupe pour nous faire des séminaires. Et à partir de là, nous, on s'entendait déjà. Donc, en amont avec Joe, on a vu comment on pouvait s'organiser. Ça a été assez simple, que Joe avait l'habitude de s'occuper de l'adversaire et moi j'avais l'habitude de plus m'occuper et enfin d'avoir plus envie de m'occuper de l'équipe coachée par Olivier. Et après il y avait Selim qui lui s'occupait un peu de mon rôle que j'occupe cette année. Comme on est plusieurs, on essaye d'être aussi sur du travail individuel et aussi c'est là que Selim, avec la bascule, avec les jeunes aussi, tous les matchs de la réserve sont filmés, on a beaucoup de jeunes dans le groupe. Et ça permet d'être précis avec les jeunes, précis avec les joueurs. Donc, ça s'est fait assez facilement, cette adaptation. Mais pour revenir à ta question, la priorité, elle est quand même commune. C'est que le club réussisse. que l'équipe réussisse et que les principes de jeu du coach soient mis en avant et assez rapidement, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. On est sur 5 semaines de préparation. Il faut que premier match, deuxième match, troisième match, on soit déjà prêt.
Jonathan, toi qui du coup es plutôt chargé des adversaires, est-ce que quand Olivier Dalloglio arrive avec Maxime, avec Selim, un peu tout le monde, tu es quand même sur la phase de pré-saison entre guillemets, où évidemment qu'il y a de l'analyse vidéo sur les adversaires, mais peut-être un peu plus de temps pour aussi s'intéresser au groupe professionnel du MHSC. Est-ce que toi tu entres aussi dans ces discussions-là? Est-ce que tu échanges avec Maxime sur les principes de jeu de l'entraîneur? Tu échanges avec l'entraîneur, etc. Non pas seulement regarder ce que font les adversaires à ce moment-là, mais déjà aussi t'imprégner de la culture de jeu amenée par Olivier Dalloglio.
Complètement. En fait, Olivier, dans son fonctionnement, nous a sorti de notre bureau et a voulu qu'on aille dans le bureau du staff technique pour avoir un open space et avoir accès à toutes les discussions qui pouvaient être liées, ben, notamment aux principes de jeu, mais aussi aux séances ou aux éventuellement recrues potentielles sur lesquelles on donnait notre avis aussi après avoir visionné des images sur eux. C'est vraiment un travail de staff, hein, puisque on échange avec le coach, mais aussi bien avec l'entraîneur des gardiens que les entraîneurs adjoints, puisqu'il y en a 3. Du coup, voilà, il y a un partage d'informations, mais c'est beaucoup plus rapide comme ça, parce qu'il n'y a pas de filtre, et du coup, c'est en direct. Donc, c'était très facile de s'intégrer. Moi, j'ai le souvenir aussi de la première discussion que j'ai avec Olivier, qui me dit, moi, j'ai envie de collaborer avec plusieurs analystes pour qu'on aille plus loin, plus vite, puisque ce n'était pas le cas dans les anciens clubs où il était passé. Maxime a toujours été présent à ses côtés, mais lui, il aimait aller plus loin. Il aurait voulu aller plus loin, mais ça ne s'était pas fait dans les autres clubs. Et lui, il avait hâte d'entrer en collaboration. Donc, il nous a ouvert les portes de son fonctionnement. Et franchement, ça se passe très, très bien.
C'est marrant que tu parles du nombre. Là, du coup, tu évoquais le fait que Olivier Dalloglio aurait voulu aller un peu plus loin dans ses autres expériences, donc être un peu plus staffé, entre guillemets, sans doute, sur la cellule d'analyse vidéo. Moi, quand j'ai dit à mon entourage ou à des personnes que je connais que j'allais interviewer 3 analystes vidéo de Montpellier, la réaction qu'on a eue, c'est « Mais 3 ? Il y a 3 analystes vidéo à Montpellier ? » C'est des personnes qui ne connaissent pas forcément le foot. Moi, ça me paraît évident. Et en plus, quand on a parlé de la répartition des tâches, évidemment, c'est assez bien délimité, même si vous êtes capable de tout faire aussi, puisque le métier d'analyste vidéo, il n'y a pas le métier d'analyste vidéo des adversaires, le métier d'analyste vidéo des entraînements, le métier d'analyste vidéo des jeunes. Enfin, vous êtes capable de tout faire, même si là, c'est assez délimité. Est-ce que vous comprenez que pour les personnes qui sont un peu extérieures à ça, ça puisse surprendre que dans un club de Ligue 1 qui joue pas le titre, on va tout de suite exclure le Paris Saint-Germain qui est surstaffé et c'est même pas la peine d'en parler, etc. Mais pour un club de la taille de Montpellier, on pourrait prendre d'autres clubs, hein, je sais pas, Bordeaux, Nantes, tous ces clubs-là. Quand on dit il y a 3 analystes vidéo, ça surprend un peu les personnes qui suivent le foot de très loin.
Mais parce qu'en fait, ils savent pas, parce que à part à Lens, mais dans les équipes qui sont dans le haut du tableau, même dans les 10 premiers du championnat, ils sont minimum 3. Je dis bien un minimum, mais il y en a, ils sont plus. Tout dépend si on compte l'entraîneur adjoint en charge de l'adversaire, parce que les staffs étrangers, ils viennent avec un adjoint en charge de l'adversaire. C'est très souvent au départ un analyste. Il est considéré adjoint, mais au départ, c'est un analyste. Voilà, donc, ils sont au minimum 3, là, la plupart des staffs qui jouent une qualification pour l'Europe. Donc, il y a beaucoup de travail. Et après, pour moi, les clubs où ils sont que 1 ou 2, ben, ils sont obligés de faire des choix, ils ne peuvent pas tout faire. Nous, aujourd'hui, le club a une politique où les jeunes qui montent, il faut qu'ils soient accompagnés, aussi bien par des entraînements supplémentaires, mais aussi par des retours sur la prestation, que ce soit avec l'équipe première ou avec l'équipe réserve. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est fait et très bien fait par l'intermédiaire de Selim avec Romain Pitot. Donc, moi, ça me surprend pas d'être 3. Et il y a même du travail pour plus, parce que bon, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Aujourd'hui, on filme les séances d'entraînement, mais on ne fait pas systématiquement des retours. On en fait, souvent on visionne, mais on ne fait pas systématiquement des retours ou on ne fait pas de live pendant les séances d'entraînement, chose qu'on pourrait faire si on était encore plus staffé, quoi.
Alors Maxime a commencé à l'évoquer, je vais juste vous redonner vos spécificités entre guillemets dans le staff technique. Maxime, donc centré sur les principes de jeu, leur bonne application. Tu travailles aussi sur des retours individuels aux joueurs et tu donnes un coup de main à la cellule de recrutement. Selim, tu es centré sur la data au sens large. Les stats, tu surveilles et analyses les performances des jeunes joueurs, comme l'a dit Jonathan aussi, les jeunes qui montent en équipe première sur des entraînements, parfois redescendent jouer avec la réserve, qui sont vraiment entre les deux mondes, entre guillemets, à cheval sur les deux mondes. Et puis Jonathan, tu es donc chargé de l'analyse des adversaires de Montpellier. On va commencer par Selim, justement. Tu es le monsieur data et technologie dans le staff. Comment est-ce que... On parlait de formation tout à l'heure pour le métier. La data et les technologies, on va citer le drone par exemple, parce que c'est un peu le truc dont on entend parler régulièrement maintenant. Ça surprend aussi, là aussi, les personnes qui suivent le foot de très très loin, qu'on puisse filmer les entraînements par drone pour vérifier notamment les distances sur les lignes, etc. Comment toi, tu te formes à ça? Parce que quand tu as commencé, j'imagine que la data n'était pas aussi omniprésente. Filmer en drone, c'était peut-être pas forcément aussi quelque chose de très commun. Comment tu t'es formé à ça et quelle curiosité tu as pour continuer à chercher des moyens de travailler avec les nouvelles technologies?
Je suis en train de me former petit à petit. J'ai commencé un peu tout seul en m'informant un peu sur Internet, sur les plateformes, comme tu disais, comme StatBomb, comme Wayscout, qui proposent déjà des données de data. Je vais réaliser cette année un DU data à l'Université de Montpellier, que Jonathan et Maxime ont fait l'année dernière. Donc, pour essayer d'aller plus loin. Et en fait, l'objectif, c'est de créer nos propres data à nous, pour plus dépendre de diverses plateformes. Donc, on est dans cette optique-là. Jonathan a ramené un drone cette année pour filmer aussi. On essaye de faire des choses nouvelles. Il parlait aussi de faire du live à l'entraînement. Je crois que Maxime l'avait déjà fait à Brest, mais avec l'objectif de filmer, de montrer, de faire un retour direct sur le terrain avec une télé ou un écran géant. On essaie de voir des nouveautés. La data, c'est quelque chose qui est en pleine évolution. On le voit, ça en parle de plus en plus à la télé, dans les radios. Maintenant, on arrive à montrer des stats de data très précises pendant les matchs, en direct ou après les matchs. Donc, c'est quelque chose qui va être important pour le futur, je pense.
Question pour toi, mais Jonathan et Maxime peuvent réagir aussi. Comment tu réagis aux anciens, on va dire, entraîneurs devenus consultants ou à des joueurs qui n'étaient pas du tout sensibles à ça, à la data, qui expliquent aujourd'hui que bah, la data, c'est bien sympa, mais rien ne remplace l'œil humain, qu'on fait dire ce qu'on veut aux chiffres. On sent qu'il y a vraiment un virage, une cassure même entre ancienne génération et nouvelle génération. C'est-à-dire que l'ancienne génération, pour la plupart, réfute totalement l'utilisation de stats parce qu'eux, ils n'ont pas été habitués à ça et qu'ils estiment que leur œil est plus important que la data. Et les nouvelles générations qui comprennent bien les enjeux et ce que peuvent apporter les stats, qui, on va le répéter, on va le dire tout de suite, il ne s'agit pas de remplacer l'homme par des chiffres, mais d'associer les chiffres à l'analyse humaine. C'est-à-dire que c'est un plus, c'est quelque chose qui permet aussi de parfois de se débarrasser de biais cognitifs. On en a tous quand on analyse quelque chose. Moi, quand j'analyse un joueur, si j'aime tel type de joueur, tel type de profil de joueur, forcément, un joueur qui va rentrer dans cette case-là va beaucoup plus me plaire qu'un autre, mais ça ne veut pas dire que l'autre est moins bon ou serait moins capable de réaliser des choses intéressantes sur le terrain. Comment tu réagis à cette... Est-ce que tu la sens déjà, cette cassure entre ancienne génération et nouvelle génération? Et si tu devais convaincre un entraîneur de, je ne vais pas dire d'âge, ouais, on va dire plus de 60 ans, 65 ans, 70 ans, je ne sais pas, de l'utilité de la stat, comment tu t'y prendrais?
Cette cassure entre ancienne génération et nouvelle génération est présente. Je pense qu'elle est assez normale dans un premier temps parce que c'est des gens qui n'ont pas vécu avec ça, qui n'ont pas eu à utiliser ces données-là. Donc quand on ne connaît pas, on se dit que on ne trouve pas vraiment d'utilité. Moi, je trouve que la data, justement, elle permet d'avoir des stats beaucoup plus poussées que, comme tu disais, à une stat, on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Avec la data, on peut être beaucoup plus précis et révéler des choses qu'on peut pas voir à l'œil, enfin qu'on peut voir mais qu'on peut pas quantifier à l'œil. On a vraiment besoin d'outils plus performants pour comptabiliser des choses. On voit que toutes les plateformes l'utilisent de plus en plus, que c'est quelque chose qui est de plus en plus accessible aux différents clubs. Et en fait, avec le coach aussi, on en parle des fois de ce qu'on va pouvoir être capable de faire demain, dans le futur, dans un futur proche. Et voilà, Olivier, par exemple, quand on lui a parlé de ce qui pouvait se faire dans peu de temps, il était très, très content. Et voilà, il avait envie de voir ce que ça allait donner pour toujours aller plus loin. Donc, ça remplacera jamais l'œil, comme tu as dit, mais on peut avoir des données qui sont beaucoup plus marquantes que des statistiques classiques ou que ce qu'on peut voir à l'œil nu. Et je pense que si, pour faire adhérer un coach à ça, c'est lui proposer des choses. Et après, nous, l'objectif, c'est toujours de mettre en relation avec la vidéo, en fait. Donc, chaque stat, il faut que derrière, il y ait une image pour appuyer la stat et pour se donner un meilleur aperçu de ce qu'on voit.
Tu parlais tout à l'heure de l'évolution, de ce qui va être possible. Est-ce que tu aurais un exemple à donner de ce qu'on pourrait avoir dans, je sais pas, 2, 3, 5, 10 ans, un élément qui fait que ça peut être vraiment aux États-Unis, ils appellent ça un game changer, mais peut-être pas jusque-là, mais quelque chose qui faciliterait clairement la vie des staffs.
Très prochainement, normalement, un match va pouvoir être séquencé et donc découpé et classé par thème automatiquement via des caméras automatiques et via une intelligence artificielle. Donc voilà, nous les analystes, on va gagner du temps, on n'aura pas à faire ça en direct. On pourra avoir un retour chiffré et précis en direct. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir un impact sur le match à l'instant T. Donc de recevoir plusieurs données, de pouvoir les trier et en fonction de ça, de faire passer le message aux adjoints pour modifier des choses par rapport au match, pour appuyer sur certaines choses, pour voir certains problèmes qui pourraient être révélés par ça et nous être plus concentrés par le jeu en lui-même et se débarrasser un peu des statistiques qu'on doit réaliser en direct.
Je vais continuer un instant avec toi. On sait que le Montpellier a changé de stratégie, mais comme tous les clubs, a aussi souffert de la crise du Covid, de la crise de Mediapro. On sait que pour les clubs, c'est aussi une vraie galère aujourd'hui de réussir à avoir des budgets équilibrés et de pouvoir vivre en autonomie financière. Donc du coup, il y a de plus en plus aussi d'utilisation de jeunes joueurs. C'est une de tes missions, justement, de suivre ces jeunes joueurs, de voir ce qu'ils font sans doute avec les professionnels à l'entraînement, de voir comment ils répondent aussi quand ils redescendent jouer des matchs avec la réserve. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton fonctionnement, comment tu fais tes retours individuels à ces jeunes footballeurs et comment ils sont suivis au quotidien quand ils sont avec le groupe professionnel ?
Alors en fait, je réalise ce travail avec Romain Pitot, qui est passé adjoint de l'équipe première justement avec ce rôle-là en priorité. En fait, on a un analyste chez les jeunes au centre de formation, donc Antoine Martinez, qui m'envoie le match où je le récupère, qui le met sur une plateforme pour que je puisse le récupérer. Ensuite, il m'envoie le match découpé et moi, selon ce que Romain va vouloir montrer aux joueurs, sur certains joueurs, on ne fait pas sur tous les joueurs à chaque fois. Voilà, il va me dire voilà, aujourd'hui tu me fais un montage sur tel joueur en essayant de me montrer ce qu'il a fait de bien sur tel aspect du jeu ou ce qu'il a fait de moins bien sur un autre aspect. Et ensuite, on fait un retour en salle vidéo, donc le joueur, Romain, donc moi qui suis à l'ordinateur, et après le coach qui peut venir par certains moments, d'autres adjoints aussi. Et en fait, l'objectif, c'est de montrer au joueur ce qu'il a fait de bien, ce qu'il a fait de moins bien, et de trouver des axes de progression pour qu'il puisse travailler à l'entraînement. Après, à l'entraînement, les jeunes joueurs, même qui ne sont pas en contrat pro, ont les mêmes séances que les professionnels. Et par contre, on leur rajoute des séances en plus par rapport à ce qu'on a pu voir en vidéo, par exemple, créé par Romain Pitot.
Alors Jean-Marc Furlan, qui était le premier invité de ce podcast, disait que les jeunes joueurs étaient très réceptifs et très à l'écoute des conseils fournis en vidéo quand on leur faisait des retours individuels, parce que notamment, ils étaient habitués aux écrans depuis longtemps et que pour eux, c'était assez facile quand on est né avec des écrans dans les mains quasiment. Alors, pas pour tous, mais on a une habitude d'avoir des écrans et que parfois, c'est même plus facile de le faire à travers des vidéos projetées comme ça que de replacer sur le terrain ou de leur dire des choses sur le terrain. Il disait que lui, il avait remarqué que les jeunes, en tout cas, étaient très sensibles au retour vidéo parce que c'était un support qu'ils maîtrisaient particulièrement. Est-ce que toi, tu as ce même sentiment quand tu leur fais des retours individuels ?
Ouais, exactement. C'est des joueurs qui ont déjà goûté à la vidéo depuis peut-être 3-4 ans. Selon le club où ils étaient en centre de formation. Ça en revient un peu à ce qu'on disait avant sur la data et entre les anciens et les nouveaux, c'est que ces jeunes joueurs-là, ils sont nés avec des écrans, ils voient tout via des écrans. Donc quand on leur montre leur match en image, ils sont plus réceptifs et puis ils sont habitués à voir ça. Donc c'est beaucoup plus intéressant que certains anciens. Après, ça ne veut pas tout dire aussi. Nous, on avait notamment les anciens de l'année dernière, des Daniel Congré, des Vitorino Hilton, qui sont des anciens, qui n'ont peut-être pas commencé leur carrière avec des staffs, avec des analystes, mais qui s'y sont mis et qui aimaient se voir aussi et qui aimaient revoir leurs matchs et travailler sur ça.
Je vais rajouter un truc là-dessus, moi, par rapport à ça. C'est vrai que les jeunes ont les outils vidéo plus tôt. Il faut apprendre à se regarder aussi. Après, c'est pas que se regarder. Qu'est-ce qu'on va regarder dans la vidéo? Où il faut regarder? Parce que les jeunes vont avoir tendance à regarder ce qui se fait de beau avec le ballon. Les retours sont souvent faits avec le sans ballon aussi. Là, il faut les éduquer, apprendre à ce qu'ils se regardent, où regarder. Et en fait, ça devrait commencer très jeune. Et petit à petit monter jusqu'à ce que le joueur soit, entre guillemets, autonome pour se regarder. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe avec les joueurs en post-formation. Ceux qui sont déjà dans le groupe pro, ils savent où regarder, ça va plus vite. Parce qu'en fait, sans qu'on leur pose quasiment la question, ils savent là où on veut en venir. Et c'est là que ça devient intéressant. Mais c'est toute une éducation qui doit commencer dès le plus jeune âge. Et par rapport à une question que tu as eu avant, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'analyses vidéo dans les clubs. C'est qu'à un moment donné, ça sert à ça. Ça sert à pouvoir se regarder, où regarder, comment regarder, découper les images et mettre en valeur ce qu'on veut montrer.
Et donc, toi, tu as noté que c'était plus. Enfin, ils avaient plutôt tendance à regarder ce qu'ils faisaient avec ballon que sans ballon, du coup.
Souvent, oui, parce qu'un joueur va regarder ce qui est beau aujourd'hui par les réseaux sociaux aussi. Quand on regarde un réseau social, mis à part les analyses qui sont faites sur du collectif, c'est beaucoup de dribbles, beaucoup de gestes techniques. Et quand on va parler à un jeune joueur. Il y a des facultés à éliminer, par exemple, sur un dribble. C'est la première chose à laquelle il va parler à la fin d'un match. Peut-être plus qu'un centre ou une passe décisive qu'il aura faite ou parfois, des fois, même un but qu'il aura marqué. Donc, c'est toute une éducation pour moi.
Alors, Maxime, tu es chargé de veiller à la bonne application des principes de jeu de l'entraîneur. Est-ce que tu peux nous dire à quoi ça correspond au quotidien et quel est ton travail, notamment à l'entraînement là-dessus? Face à la vidéo, quand tu disais, je sais plus si c'était toi ou Jonathan qui disait, on filme aussi les entraînements, on fait soit en live, soit après des retours post-entraînement sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce que ça veut dire vérifier la bonne application des principes de jeu?
Mais le coach a des idées depuis qu'il a commencé à entraîner. J'ai eu la chance de faire partie de son staff, donc je me suis un peu approprié ses idées, tout en essayant de faire évoluer aussi les choses avec le football qui avance aussi. Le coach, il a énormément de tâches. Il y a aussi la presse, les relations avec les joueurs, les relations avec les administratifs. Nous, on est là pour faciliter les choses. Et en fait, on parlait de nos différents rôles tout à l'heure. Le fait de le connaître, ça permet d'aller plus vite parce qu'on sait ce qu'il veut. On sait là où il veut en venir. Il n'y a pas besoin de vérifier une vidéo ensemble en montrant simplement une image. C'est ce qu'il va dire sans l'avoir choisi. Parce que, au bout de 10 ans, on a regardé un paquet de matchs ensemble, on a vu un paquet de joueurs en vidéo, et c'est souvent les mêmes feedbacks qui reviennent. Donc, du coup, moi, je me les suis appropriés. Et donc, de par l'analyse des matchs, de par l'analyse des entraînements, parce que le fait d'être plusieurs permet de pouvoir un petit peu plus analyser les entraînements, on peut faire plus de retours aussi avec les joueurs, et ça permet d'aller plus vite. Parce que moi, avant, par exemple, pour mon rôle, on avait à peine fini le match et le retour du match, il fallait déjà que je bascule sur le prochain adversaire. On avait moins de temps peut-être pour faire des retours individuels avec les joueurs. Là, le fait que Joe et Selim s'occupent de l'adversaire, j'ai un peu moins ce rôle-là à accomplir et du coup, je privilégie de regarder plusieurs fois peut-être le match et de re-regarder des séances d'entraînement pour s'il y a des retours à faire, à les faire le plus vite possible.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quand j'avais eu Olivier Dall'Oglio dans ce podcast, c'était l'année dernière quand il était à Brest, il m'avait parlé de ses principes de jeu du coup et il m'avait dit qu'il était évidemment, mais comme tous les entraîneurs, très dépendant de ses joueurs en m'expliquant que il avait pris un exemple à Dijon sans citer le joueur évidemment, mais en me disant parfois on a des principes de jeu forts Sauf que quand on n'a pas les joueurs pour les appliquer, ou en tout cas pour appliquer certains morceaux de principe de jeu, c'est difficile. Il m'avait pris l'exemple de quand on demande à un milieu de terrain de savoir contrôler dos au but et d'orienter sa passe de manière qualitative pour faire progresser le jeu. Il y a des joueurs qui sont capables de le faire en une touche de balle ou en deux touches de balle. Et puis, il y a des joueurs qui vont avoir tendance à reculer de 5 mètres pour rentrer dans une zone de confort avant de distribuer le jeu, etc. Ça, c'est des retours en vidéo que vous pouvez faire, que vous pouvez constater aussi. Si, par exemple, vous voyez qu'un joueur, sur les sorties de balle qui peuvent être beaucoup plus rapides et mieux maîtrisées, vous avez un milieu de terrain qui est un peu en difficulté. Bon, en l'occurrence, quand on a notamment un TJ Savani au cœur du jeu à Montpellier, c'est pas le genre de problème qu'on rencontre souvent, j'imagine. Mais l'analyse vidéo aussi s'arrête quelque part aux limites des joueurs. C'est-à-dire que l'analyse vidéo sert aussi à faire progresser les joueurs, à leur montrer ce qu'il faut faire, comment le faire, prendre conscience de certaines choses. Mais après, là aussi, vous êtes dépendant des joueurs.
Oui, exactement. Mais dans ta question, tu as un petit peu tout dit. Après, on peut toujours faire évoluer un joueur. Tous les joueurs ne partent pas du même pied d'égalité. Tu l'as dit aussi, il y a des joueurs plus talentueux, plus techniques, d'autres plus physiques. Ça va dépendre de la qualité des joueurs. Après, on peut toujours faire évoluer un joueur avec ou sans ballon. Et parfois, on va essayer de mettre des joueurs avec des qualités techniques peut-être supérieure dans des zones où on a envie de le voir et d'essayer de mettre d'autres joueurs dans des zones plus pour de la fixation ou attirer un joueur et essayer de pouvoir avoir une domination sur l'adversaire à d'autres endroits du terrain avec d'autres joueurs. C'est aussi ça ce qui est passionnant dans notre métier, c'est que travailler avec différents groupes, différents types de joueurs avec pas les mêmes qualités. Et ce qui est intéressant, c'est de faire évoluer ses idées avec les joueurs à disposition.
Jonathan, toi, tu es chargé de l'analyse des adversaires. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu tes process de travail par process, évidemment pas les secrets, mais nous dire un peu à quel moment tu les observes, combien de fois tu observes les adversaires, sur quelle typologie de match aussi, parce qu'on sait que... Alors justement, est-ce que tu observes, par exemple, des adversaires qui ont joué contre des clubs qui ont des entraîneurs qui ont une philosophie de jeu qui se rapproche de celle d'Olivier Dalloglio pour essayer de... Ou est-ce que tu te dis, par exemple, ça m'intéresse aussi de les voir dans toutes les situations, parce que sur tel match où au départ je me dis c'est pas du tout la même adversité qu'ils auront quand ils vont rencontrer Montpellier, justement je vais découvrir des failles où on va pouvoir s'engouffrer nous aussi en nous adaptant à cet adversaire-là. Combien de fois tu les regardes face à quel type d'adversaire? Et en gros, est-ce que tu es vraiment à la semaine, c'est-à-dire dimanche au samedi, tu fais le prochain adversaire, ou est-ce que tu prends un peu d'avance aussi pour essayer de gérer un petit peu en avance en faisant des retours au coach?
Déjà, pour répondre à la dernière question, oui, j'essaie de toujours être en avance. Là, j'ai déjà commencé Nice, puisque Nantes, c'est quasiment fini. Je vais avoir quelques ajustements à faire tout à l'heure. Après le podcast, on a une réunion avec le coach justement pour parler avec le staff des derniers ajustements qu'on va faire sur le dernier entraînement et les dernières causeries. Parce que entre notre discussion dans le podcast et le match, il y a trois causeries et un entraînement. Donc, on va bien entendu les préparer avec l'ensemble du staff. Donc, j'essaie d'être en avance. J'ai déjà commencé Nice, puisque la semaine prochaine, on joue Nice. Et puis après, pour ce qui est des matchs, ça dépend du temps que j'ai, mais ça peut aller jusqu'à beaucoup de matchs. Au minimum, c'est 4, mais je vais jusqu'à très souvent 5-6. Même des fois, je vais plus loin chercher des images. Dans mes souvenirs, j'ai vu un match, et des fois, il y a une image qui m'intéresse, je peux aller la chercher. Après, par rapport aux équipes, effectivement, on va essayer de regarder les équipes qui nous ressemblent, comment elles ont été contrariées ou comment elles ont réussi à déjouer l'équipe qu'on va jouer. On essaye de prendre un peu tout. J'ai un process qui est carré, mais après, il n'y a pas la recette miracle. On va essayer de trouver des habitudes, quelque chose qui revient très souvent quand ils ont le ballon et quand ils ne l'ont pas. Et comment on peut quantifier ça? Et après, comment on peut contourner et essayer de contrecarrer ça. En fait, on va rester sur des choses simples et sur des choses qu'on est sûr qui vont se passer, qui vont se produire, pour donner un temps d'avance aux joueurs pour qu'ils puissent anticiper et avoir vu cette chose. Voilà. Après, dans un match, il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas. Mais tout ce qu'on peut maîtriser, notamment les coups de pied arrêtés ou les 6 mètres, ou des phases de jeu sur des relances ou des possessions, comment ils se positionnent, etc. Ben, on va leur donner ces aimants-là pour qu'on puisse presser correctement, pour qu'on puisse récupérer le ballon correctement. Et puis après, quand on attaque, leur montrer où il y a des espaces, où comment se positionner dans ces espaces, comment les attaquer.
Alors là, tu parlais, du coup, on a regardé l'analyse collective de l'adversaire. Est-ce que tu te penches aussi sur des individualités chez l'adversaire et du coup, en faisant des retours aux joueurs qui vont être dans sa zone de jeu, les joueurs de Montpellier, je parle, qui vont être dans la zone de jeu de tel ou tel joueur?
Alors ça, le coach, quand il y a une ou deux individualités qui est influente, on va le mettre dans le collectif, c'est-à-dire que c'est tout le monde qui va le voir. Après, on va y revenir le jour de match ou des fois un peu avant sur s'il y a vraiment quelque chose en particulier avec le joueur. Quelqu'un du staff, un des adjoints va revenir sur cette individualité ou le coach. Ça peut arriver. Mais après aussi, on fait, ça c'est Selim qui est en charge, c'est qu'il fait un mini bilan, un mini rapport sur chaque joueur qu'on met en place dans le vestiaire pour avoir les qualités fortes de l'adversaire et aussi un peu ce qui peut le gêner, ce qui peut le contrarier.
On le disait tout à l'heure, les staffs sont de plus en plus épais, s'élargissent, staff technique, mais staff aussi médicaux, de préparation physique, etc. Il y a de plus en plus de personnes qui entourent l'entraîneur, l'entraîneur qui chapeaute le tout, mais qui est aussi sollicité par vous, par le staff technique, le staff médical, sollicité par ses joueurs, évidemment, qui est sollicité par ses dirigeants, qui est sollicité par les médias, qui a beaucoup de travail et de relations aussi à gérer, à maîtriser. Est-ce que Olivier Dalloglio vous demande, par exemple, d'être très concis dans vos rapports pour éviter de se disperser et du coup, d'en savoir le plus possible en consommant le moins de son temps possible? Ou est-ce qu'il est plutôt du genre à vouloir savoir tous les détails et ensuite, c'est lui qui fait le tri? Est-ce que, est-ce que vous êtes très concis sur des principes forts, notamment sur l'adversaire, etc.? Ou est-ce qu'il veut avoir tous les détails et ensuite, c'est lui qui fera le tri?
Là-dessus, il me fait confiance, il me demande d'être concis, de vraiment aller à l'essentiel. Les causeries sont courtes, les vidéos durent entre 3 minutes et 4 minutes, grand max. Donc, c'est des vidéos assez courtes, donc on doit aller à l'essentiel. Après, lui, de son côté, il fait aussi un travail d'analyse. De son côté, il regarde. Voilà, donc quand on lui présente quelque chose, il sait si ça correspond à ce qu'il attend ou pas. Donc, le but, c'est pas d'avoir... Notre objectif, c'est de lui faire gagner du temps. Donc, on va à l'essentiel. Si c'est pour imprimer 40 pages d'un rapport qui existe sur une société ou que nous, on fait des rapports de 50 pages, ça n'a aucun intérêt. Alors, on va lui faire perdre plus de temps que lui en faire gagner. Donc, l'objectif est d'être vraiment précis et concis.
Une question peut-être plus pour Selim et Maxime. Si vous faites des montages individuels sur les joueurs de Montpellier, ce qu'ils font de bien, de moins bien, à l'entraînement ou en match, à quelle fréquence vous le faites? Comment vous travaillez? Est-ce que vous travaillez vraiment individuellement? Ou par exemple, il y a Mathieu Féjean qui est analyste vidéo au Servette, qui m'avait expliqué que lui, il aime bien travailler par ligne, c'est-à-dire la ligne défensive, la ligne du milieu de terrain et la ligne des joueurs offensifs. Et il disait, ça nous permet d'avoir quelque part un peu de collectif dans les individualités quelque part. C'est-à-dire qu'on travaillait sur un échantillon non pas de 11 joueurs, d'un bloc équipe, mais plutôt sur 4 ou 3 joueurs selon le nombre de joueurs dans chaque ligne. Est-ce que vous travaillez vraiment sur les individualités ou sur, comme lui, par ligne et à quelle fréquence vous faites des retours individuels?
Les deux, mais c'est un sport d'interaction. Donc c'est des relations entre par doublette, par ligne. Des fois, on va faire par doublette, soit un défenseur, un latéral et un excentré, par exemple, pour essayer de créer une relation, ouais. Une relation forte qui va se retrouver après sur le terrain. Ça peut être par ligne, quand il y a vraiment des soucis d'alignement, de cadrage et de non-fermeture des espaces derrière. C'est assez aléatoire, ça dépend un petit peu du match. Mais on va travailler sur les deux. On va voir un joueur, des fois, à trois, l'adjoint, les analystes et le coach, faire un retour d'un quart d'heure, 20 minutes avec une dizaine d'images. Et parfois, on va prendre les joueurs du même poste pour lui montrer ce qu'on attend aussi le jour où il va jouer. Parfois, c'est trois joueurs d'un même poste. Ça va être deux latéraux, deux excentrés d'un même côté, ou tous les latéraux, tous les excentrés, ou tous les milieux défensifs et les milieux offensifs. Voilà, essayer de créer ces relations dans les relations directes de jeu, dans ce qu'on va te demander. On essaye de regrouper pour qu'il y ait des interactions.
Et du coup, ces retours individuels, c'est quoi? C'est hebdomadaire?
Ouais. Ouais, c'est hebdomadaire. On en fait 3-4 par semaine avec 3-4 joueurs différents.
D'accord. Et c'est plus lié à des images de match ou des images d'entraînement ou un peu des deux ou...
Souvent en match. Souvent en match parce que c'est quand même la réalité. À l'entraînement, on ne maîtrise pas forcément ce qui se passe la semaine pour un joueur. Donc, les états de forme, tout ça. On part du principe que le jour du match, c'est un peu le contrôle de la semaine. Donc, voilà. Et puis, ça parlera peut-être plus aux joueurs. Parce que quand on parle d'un entraînement, des fois, il est un petit peu. Il sera moins attentif, on va dire.
Nous, par rapport au montage des jeunes aussi, on a eu quelquefois l'occasion de faire en fait par rapport au poste. Où, par exemple, un jeune qui joue au poste de milieu offensif, on devait lui faire un retour vidéo. Juste avant, Maxime devait faire un retour vidéo avec le milieu offensif titulaire en gros, de l'équipe professionnelle. On fait venir le jeune joueur qui voit aussi le montage de ce qu'on demande au titulaire en Ligue 1. Pour qu'il voit un peu ce qui lui est demandé. Et après, on lui fait son retour à lui, mais voilà. On mélange aussi, il fait quelquefois mélanger les jeunes voilà, qui jouent en N2 et avec les professionnels qui jouent en Ligue 1, pour vraiment qu'ils voient ce qu'on leur demande au plus haut niveau.
Ouais, c'est une mise en situation directe en lui disant bah en équipe première ça se passe comme ça et voilà ce qui est demandé à des joueurs qui jouent au ton poste en fait. À propos de l'analyse en live, vous parliez tout à l'heure de l'analyse en live pour les entraînements, ça existe aussi évidemment pour les matchs. Est-ce que c'est là que le travail est le plus, je sais pas si je dois dire difficile, mais en fait il y a un rapport au temps qui est différent. C'est-à-dire que quand vous analysez la première mi-temps, il faut que quand l'entraîneur arrive dans le vestiaire, si vous lui faites des recommandations ou des observations, elle soit immédiate. C'est-à-dire que vous n'avez pas le temps de vous dire, attends, je vais revisionner une deuxième fois pour être vraiment bien sûr de voir ce que j'ai vu, etc. Est-ce que pour vous, c'est vraiment le plus difficile, le live? Si vous deviez quantifier un petit peu la difficulté des différentes tâches que vous êtes amené à faire au quotidien, est-ce que l'analyse en live, de par le fait que bah, c'est du live et donc c'est immédiat, c'est là que c'est le plus délicat?
Je pense qu'on a tous les trois la même réponse. Je pense que oui, c'est vrai, c'est la réalité, et puis c'est là qu'on doit aller vite. Et c'est pour ça aussi qu'on est trois, et c'est bien d'être trois, parce que pendant qu'il y en a un qui va séquencer, l'autre va pouvoir regarder un peu plus précisément, et l'autre va pouvoir s'occuper du montage de mi-temps, et même habiller l'image pour être un peu plus clair vis-à-vis des joueurs.
D'accord, donc vous êtes à chaque fois tous les trois sur le match.
Malheureusement, à l'extérieur, on ne peut pas être tous les trois.
Ouais.
À domicile, on est trois, plus un adjoint qui monte en tribune. Et on va, là, ce week-end, avoir des caméras automatiques. Donc, pour être encore plus efficace et efficient. Mais oui, là, c'est le. D'être trois, mais c'est pas de trop.
Ouais, donc du coup, ce que tu commençais à m'expliquer, c'est qu'il y en a un qui séquence. Donc, vous regardez tous les trois le match, évidemment. Vous notez les séquences qui vont vous intéresser. Donc, il y en a un qui va extraire les séquences, c'est ça? Il y en a un qui va les habiller, faire des montages, etc. Avec, quand on dit les habiller, c'est mettre quoi? Mettre les distances de ligne, mettre les espaces libres qui ne devraient pas être libres, etc. etc. C'est ce genre de choses-là?
Depuis lumière, des espaces,
Ouais.
Voilà, des flèches pour essayer de répondre aux besoins du match. Mais oui, on est deux à séquencer, en fait. Céline, plus sur de la data pour avoir aussi des données chiffrées rapidement.
Pour donner un petit dossier à la mi-temps, enfin, une feuille aussi, parce que faut que ça soit rapide. Et par rapport à ta question d'avant, très, très peu de stats, des stats vraiment précises qu'on fait nous-mêmes et qui sont pas dispo sur des sites ou par exemple sur l'équipe. Mais quelque chose qui se lit vraiment en 30 secondes parce que le temps de descendre au vestiaire, d'aller imprimer. Voilà, c'est pendant les 5 premières minutes de retour au calme des joueurs. Là, à ce moment-là, le staff, je donne une feuille au coach et aux adjoints aussi, qui puissent lire des statistiques.
C'est des retours forcément collectifs ou si vous voyez vraiment un joueur qui est en difficulté, vous faites aussi ce retour avec. Alors peut-être pas, vous n'avez peut-être pas le temps de faire un montage individuel, mais en tout cas faire au moins ce retour oral au coach en disant bah on l'a vu en première mi-temps, sans doute que lui il l'a vu aussi peut-être ou peut-être pas. Il se fait tout le temps prendre le latéral, il est mal aligné, il se fait prendre dans le dos en permanence ou. L'espace entre lui et l'axial, bah, il est trop important. Il y a des joueurs qui se mettent là exprès pour créer des espaces. Et voilà. Est-ce que il y a une possibilité aussi, avec le temps très réduit, de noter des choses sur les joueurs de manière individuelle?
Les deux sont possibles et ont été faits. On a souvent des images offensives et défensives à la mi-temps sur du collectif, mais on peut se servir de ces images pour faire un retour individuel avec un joueur, selon ce qu'on a montré ou pas montré au collectif.
J'aimerais rajouter, 15 minutes, c'est long, hein. On ne se rend pas compte.
Ouais.
Mais le temps, il y a un temps où il y a un débrief avec le coach, Et après, il y a un temps où le coach il parle, mais quand le coach parle, ça, c'est très rare que lors d'un briefing mi-temps où c'est la sonnette qui arrête le coach. Il y a toujours un temps où il y a encore à nouveau la possibilité de discuter avec les joueurs individuellement. Et ça, le coach ou les adjoints peuvent le faire sans problème. Donc 15 minutes, on a largement le temps de faire tout ce que tu nous as demandé.
Et pour revenir à notre parole de tout à l'heure, où quand je vous disais que des personnes qui suivent le foot de loin se disent 3, c'est beaucoup, il n'y a aucun moment, on est bien d'accord, quel que soit l'adversaire, le style de jeu de l'adversaire, que le match soit bon ou pas bon, il y a toujours des choses à noter dans les matchs. Il y a toujours des choses à sortir, d'ailleurs qu'elles soient extrêmement positives, donc dangereuses pour votre équipe, ou extrêmement négatives, et des choses dont il va falloir profiter quand vous allez les affronter. Ça, c'est pour les adversaires. Et puis pour les joueurs de l'équipe, il y a toujours des joueurs qui, on va le dire vulgairement, sous-performent, surperforment, ont des difficultés, ou sont très bien, font des choses bien. On peut encore ajuster certains mouvements, certains déplacements, certaines recherches de passes, etc. Il y a toujours des choses à noter dans les matchs que vous observez.
Oui, complètement. L'objectif de la mi-temps, c'est dans le temps imparti de faire passer le maximum d'informations, des informations que les joueurs vont comprendre et vont pouvoir après mettre en œuvre sur le terrain. C'est le plus dur en fait, c'est que quand les joueurs y repartent, ils aient compris le message et que tous ensemble, ils repartent avec le bon objectif, le bon projet. C'est ça le plus dur.
Moi, je vais rajouter la mi-temps, c'est pour réajuster, mais ça dépend aussi de ce que donne le match. Du contexte, parce que des fois le coach va complètement mettre la vidéo de côté et parler que d'aspects plus motivationnels. On agit sur le psychologique et sur des attitudes où enfin, ça m'est déjà arrivé qu'on perde 2-0 à la mi-temps. Je descendais avec l'ordinateur, mais je savais très bien pertinemment qu'il n'allait pas servir. Mais on descend, c'est notre métier d'être là et de, si besoin de pouvoir montrer et d'être acteur. Mais ça sera toujours le coach qui va décider. Et de voir, il n'est pas réceptif à quelque image qu'il soit.
Ça dépend de l'humeur du coach aussi. Quand on perd 3-0 à la mi-temps, on n'a peut-être pas envie de voir un montage. Et si les joueurs sont passés à côté dans l'état d'esprit, peut-être qu'il va vouloir vraiment insister là-dessus, quoi. On a parlé GPS, on a parlé drone, data, logiciel d'analyse. Tout ça évolue très vite dans votre métier. Est-ce que vous avez le temps de vous intéresser à ce que font d'autres clubs en matière d'analyse vidéo, vous vous disiez que vous connaissiez un peu tous les analystes vidéo. Est-ce que vous échangez sur des pratiques, des logiciels, des technologies différentes? Est-ce que vous aimez découvrir aussi un peu ce que font des entraîneurs un peu moins connus en France, en Ligue 2, à l'étranger, des approches de jeu proches forcément ou pas forcément d'ailleurs de ce que vous faites à Montpellier avec Olivier Dalloglio? Alors, je ne vais pas demander à Maxime, parce que Olivier Dalloglio m'en avait parlé, que Maxime était assez curieux, et on avait parlé de Sassuolo, de Roberto De Zerbi, etc. etc. Jonathan et Selim, du coup, est-ce que vous avez le temps, tout est toujours une question de temps, de vous intéresser à comment les autres clubs travaillent, ce que font les autres analystes, les nouveaux logiciels qui sortent, les nouvelles technologies, etc. etc.
Bah, un peu comme Maxime, je pense que ça sera pareil pour Jo. On est à l'écoute de tout, de ce qui est nouveau. Là, c'est quelque chose qui est aujourd'hui présent sur les réseaux sociaux. Donc, on peut vite avoir accès à ce que différents coachs font à l'étranger ou dans d'autres niveaux. Donc, c'est toujours intéressant de prendre des idées. Après, sur ce qui est de la relation avec les autres analystes, on essaye de... Jonathan en parlera mieux que moi, mais on essaye de mettre en place des choses pour un peu uniformiser le travail, pour se faire gagner du temps. Chacun, on essaye de se donner des idées pour aller plus vite dans le partage, pour pouvoir après travailler plus simplement et plus rapidement chacun de notre côté. Mais ouais, c'est quelque chose qui est important pour pouvoir évoluer et trouver de nouvelles idées.
Pour reprendre ce que Céline dit, on s'intéresse beaucoup à ce qui peut nous faire gagner du temps, à ce qui peut nous faire être plus performants. Et du coup, on a un groupe WhatsApp entre analystes et on échange énormément dessus sur des nouvelles technologies, des nouveaux logiciels. Voilà, on n'hésite pas à donner des astuces s'il y en a qui n'ont pas vu telle ou telle fonctionnalité sur le logiciel qu'on utilise, puisqu'on utilise tous le même logiciel pour ce qui est l'analyse vidéo. Même après, si on a des prestataires et des sociétés différentes pour la data, mais on s'intéresse vraiment à tout ce qui peut améliorer notre quotidien. Et la dernière chose que je dirais, c'est que tous les analystes aujourd'hui, On aimerait que la Ligue mutualise les coûts qu'on a sur certains logiciels ou sur des plateformes, puisqu'on les utilise tous, voilà, pour faire tomber les prix et pour uniformiser le travail, notamment en live, quand on arrive sur des stades où y en a, ils filment, il y en a qui ont des caméras automatiques, il y en a qui ont des caméras mobiles automatiques. On n'en a pas tous les mêmes process. Et donc après, c'est assez compliqué quand on veut récupérer un plan tactique en live, quand on arrive sur des stades. Et ça nous fait perdre du temps, ou ça nous fait des process différents selon les stades où on va. Donc c'est des petites choses qui sont améliorées. Et il existe voilà, des choses pour uniformiser. Voilà, et on aimerait que la Ligue nous entende là-dessus.
Alors, deux petites questions liées à ta réponse, Jonathan. La première, c'est est-ce que tu peux donner une fourchette, je ne vais pas te demander le prix, je ne sais pas si tu le connais, le prix exact, mais du logiciel que vous utilisez, tu dis que vous aimeriez que la Ligue mutualise un petit peu les coûts, et ensuite que, en gros, ils achètent un certain nombre de licences et ensuite qu'ils dispatchent au club. Est-ce que tu peux donner, en gros, une fourchette pour que les gens se rendent compte
Il n'y a même pas besoin d'une fourchette, c'est que le logiciel qu'on utilise, le haut de gamme, parce qu'il existe 5 ou 6 versions du logiciel, le meilleur modèle c'est 5 000 euros l'année. Voilà. C'est un outil très, très, très performant. Voilà, donc, il vaut 5 000. On n'est pas obligé d'avoir 6 ou 7 licences dans un staff, parce que les autres logiciels sont capables de faire pas mal de choses, mais c'est que les logiciels peuvent, les différentes versions peuvent interagir et on peut lire le travail des autres. Voilà, le modèle qui s'appelle Elite, il vaut 5 000 parce qu'on peut faire du live avec. Donc après, si dans le staff, il y a des personnes qui ne font pas de live, ils n'ont pas besoin d'avoir une version Elite. Voilà. Après, il existe des logiciels d'analyse vidéo moins chers. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, les 20 clubs, on utilise celui-là.
C'est fait dans d'autres ligues, c'est fait en Belgique, par exemple.
Oui.
Ça s'est fait en Belgique, mais en France, c'est pas fait.
Ça répond ça. Par rapport à ta première question sur la reconnaissance, tout ça, on est quand même un métier hybride et pas très reconnu. Et du coup, les moyens mis à disposition par la Ligue, la FFF, sont quand même réduits par rapport aux besoins et aux attentes des staffs et des coachs aujourd'hui en France. Voilà.
Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est, puisque Jonathan, j'ai compris du coup que tu avais amené un drone pour cette saison, que les logiciels coûtent cher, que les providers de data, bah, ça coûte cher aussi. Mine de rien, le club compte 3 analystes vidéo, donc ça a un coût aussi pour le club. Donc ça veut dire aussi que vos dirigeants sont réceptifs et comprennent aussi les enjeux d'avoir du matériel, c'est-à-dire qu'ils voient bien l'apport que vous avez aussi au sein du staff technique. Et si on veut maximiser votre travail, il faut aussi mettre des outils à votre disposition pour travailler plus efficacement, en toute tranquillité, etc., etc.
Oui, bien sûr. Après, très souvent, tout part du coach. Très souvent, c'est le coach qui va appuyer notre demande. Ce n'est pas nous qui allons directement négocier avec la direction ou quoi. Nous, on dit au coach, voilà, si on voudrait tel et tel logiciel pour pouvoir travailler plus vite, plus rapidement, pour être plus efficace, etc. On donne les avantages d'avoir ces procédés-là au coach. Et le coach, après, c'est lui qui va à la direction en demandant. Et après, la direction valide ou pas. Très souvent, moi, au club, en tout cas ici à Montpellier, c'est comme ça que ça se passe. Et quand le coach demande et qu'il a les bons arguments, qu'on a une avancée dans nos process.
Les demandes de coach ne sont pas les mêmes. Et du coup, suivant les staffs, les demandes ne sont pas les mêmes. Donc, c'est les coachs. Moi, je rejoins Joe par rapport à ça. C'est les coachs qui sont les moteurs de tout ça. Et nous, par exemple, on a demandé une télé pour amener sur le terrain pour pouvoir aller plus vite dans les retours aussi. Le coach est très demandeur en vidéo. Et plus on a d'outils, plus on va vite. Plus on peut montrer rapidement au joueur ce qu'on attend de lui, plus on avance. Et plus ça fait avancer le club.
Et donc, ce que les auditeurs et auditrices doivent comprendre, c'est que vous êtes quand même beaucoup dépendant du profil de l'entraîneur. Et quand je dis profil, ce n'est pas parler de principe de jeu, hein, c'est son rapport à votre... Ouais, exactement, à la vidéo, à votre observation, à la technologie, à la data, enfin un peu à tout, quoi.
C'est exactement ça. Votre rôle est complètement différent selon l'entraîneur en place.
Dernière petite question avant la fameuse dernière question. Est-ce que dans chaque analyste vidéo sommeille un entraîneur qui rêve de devenir entraîneur principal? C'est une question parce que beaucoup d'analystes vidéo ont des diplômes d'entraîneur, UEFA-B, UEFA-A, UEFA-Pro, peu importe. Je pense qu'il n'y en a peut-être pas beaucoup qui ont UEFA-Pro, je ne sais pas, vous me direz, mais ont passé des diplômes d'entraîneur. Est-ce que sommeille quelque part l'idée, le rêve, l'objectif, je ne sais pas comment on l'appelle, mais d'être un entraîneur principal?
on fait ce métier parce qu'on aime, on aime le jeu, on aime la tactique. On a tous les trois, Maxime, je sais pas trop, mais on a déjà entraîné des équipes de jeunes. Maxime, ouais, Maxime aussi. Jonathan, par exemple, c'était mon coach en U19, j'étais son joueur. Donc voilà, il a passé les diplômes. Moi, j'ai, via mon cursus TAPS aussi, j'ai passé les premiers diplômes, le BMF, et j'ai été éducateur pendant 4 ou 5 ans de jeunes joueurs. Et c'est ça qui donne, enfin nous en tout cas, c'est ce goût-là pour l'entraînement et le coaching qui te donne envie de devenir analyste vidéo. Parce que c'est une possibilité de rentrer dans un staff professionnel via une porte plus accessible que les autres quand on n'a pas de parcours de joueur professionnel. Donc ouais, un rêve, un objectif, ça peut l'être aussi. Il y a eu le cas en Allemagne, où c'était un ancien analyste.
Bah, t'en as plusieurs en fait.
Ouais, il y en a eu plusieurs qui étaient analystes vidéo et qui sont devenus entraîneurs adjoints, puis entraîneur principal. Une équipe professionnelle, donc je pense que ouais, c'est un rêve, mais qui peut être réalisable. En France, je sais pas pour l'instant la considération qu'on a, mais je pense que dans d'autres pays et peut-être plus tard en France, ça pourra arriver.
Je vais rebondir sur ce que dit Salim. Je pense qu'aujourd'hui, oui, pour ma part, oui, c'est vrai qu'à terme, d'ailleurs, le coach nous incite à passer les diplômes, sauf que c'est un petit peu freiné par la Fédé, parce qu'en fait, on n'a pas forcément cet accès au diplôme. Moi, je me suis arrêté UFAB, je crois que c'est le BEF, ça correspond à ça. J'étais en recyclage les deux derniers jours, avec une envie d'aller au diplôme au-dessus. Et je ne sais pas si j'en aurai la possibilité un jour. Après, avec le nombre de matchs qu'on voit, les personnes qu'on côtoie à travers les coachs, les adjoints, on progresse. Enfin, au jour le jour, on regarde tellement de matchs, on apprend tous les jours de chacun. Peut-être qu'un jour, oui, si l'opportunité se présente, on aura envie. On a déjà tous été éducateurs auparavant. On aimait ça. Je pense que pour nous trois, c'était un rêve de travailler dans le football, dans notre passion et dans le monde professionnel. Et pour la suite, on verra. Mais oui, on a, pour ma part, toujours une envie de pouvoir un jour mettre les idées qu'on a et qu'on a même élaborées au fil du temps, peut-être en place.
Moi, pour ma part, moi, j'ai eu ma petite expérience. Moi, c'est pas du tout un rêve d'être entraîneur professionnel ou quoi, même si j'ai passé des diplômes d'entraîneur. On a un métier de l'ombre, et ça me va très bien. Aujourd'hui, les entraîneurs sont trop exposés par la critique, notamment des journalistes ou des joueurs, alors que très peu savent combien de temps ils passent à préparer les séances, parler aux joueurs, à réfléchir sur qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. Voilà, c'est un métier qui est chronophage, qui est soumis à de fortes pressions. Moi, perso, je suis très bien. Voilà. Et donc, pour l'instant, moi, il n'y a pas de plan de carrière pour me dire un jour ou l'autre, je vais aller entraîner ou quoi. Mon métier me convient très bien. J'ai un métier de l'ombre. Tous les jours, je parle de football, je regarde des matchs de foot. Ça me convient. Je sais très bien là où je suis.
Alors, j'ai une dernière question qui m'est venue pendant que vous étiez en train de parler, du coup, parce que j'ai interrogé aussi des recruteurs qui étaient passés par le métier d'analyste vidéo. J'ai un peu l'impression que ce métier d'analyste vidéo est une belle passerelle pour beaucoup de choses. C'est-à-dire que, à force de voir des matchs, de les analyser, de travailler, de côtoyer des entraîneurs, des adjoints, comme vous le disiez, parfois ça peut être quand on est analyste au centre de formation, bah des formateurs aussi, avec un peu plus d'expérience, etc. On réussit à acquérir un bagage de compétences liées au terrain, peut-être moins managérial, parce que dans la relation aux joueurs, même si vous faites des réunions, c'est différent de ce que peut vivre un entraîneur ou d'autres personnes dans un club. Mais j'ai l'impression, je ne vais pas dire que c'est un point de passage obligé, mais en tout cas, c'est une belle ouverture ensuite pour faire d'autres métiers. Par exemple, des recruteurs qui me disent « je voulais être recruteur, un peu comme vous, bah, je ne savais pas par où commencer ou on ne peut pas devenir recruteur comme ça du jour au lendemain et intégrer une cellule de recrutement d'un club de Ligue 1 ». Donc, montrer qu'on est capable de faire de l'analyse vidéo, de détecter ce qui est bien fait, mal fait, individuellement, collectivement. On travaille aussi sur les montages, donc avoir des compétences en montage vidéo, pour séquencer, etc. Bah, ça intéresse aussi les clubs quand on va toquer pour un poste de recruteur. Et on a des exemples aussi d'analystes vidéo qui sont devenus, comme vous le disiez, des entraîneurs, même parfois des très jeunes. Moi, je connais un jeune Italien qui était analyste vidéo, qui est passé entraîneur des gardiens et aujourd'hui il est entraîneur principal à 32 ans dans le monde professionnel. Donc ça veut dire aussi que ce poste-là finalement vous donne beaucoup de compétences pour ensuite partir soit une autre voie dans le recrutement. D'ailleurs je crois que de Maxime, il me semble que Tu donnes un coup de main, c'est ça, la cellule de recrutement sur de la vidéo ou quelque chose comme ça? Non, il n'y a pas une tâche liée à la cellule de recrutement?
Si, plus ou moins. Après, voilà, c'est ce que souvent le coach dit, et quand on discute ensemble avec notamment les directeurs sportifs ou les recruteurs, c'est qu'il estime qu'on regarde énormément de matchs et qu'on a un œil aussi sur les joueurs. Donc oui, il nous demande notre avis. Après, ça va dépendre de l'ouverture du coach aussi, qui nous demanderait absolument rien, et des cellules de recrutement qui ne se serviront pas de l'analyse vidéo. Mais oui, aujourd'hui, il y a un rôle. Et puis, par rapport à ta question, bien sûr que ça ouvre plein de possibilités. Après, c'est toujours pareil, c'est toujours l'ouverture d'esprit de la personne qui on travaille qui va faire que oui ou non, on aura la possibilité d'évoluer, parce qu'il y a d'autres entraîneurs. On n'a pas le même rôle avec tous les entraîneurs.
Après, pour répondre à ta question, il y a des entraîneurs qui sont devenus recruteurs aussi, et des recruteurs qui sont devenus entraîneurs. Donc oui, effectivement, une fois qu'on a été dans un staff, qu'on a travaillé pour un staff, parce que même quand on est recruteur, à tout moment dans la saison, ben, on vient voir les matchs de l'équipe pour le club pour lequel on travaille, on discute avec le coach, on discute avec les adjoints, etc. On est tous liés, on a tous notre objectif, que ce soit recruteur, entraîneur, adjoint, c'est que l'équipe première, elle performe. Donc du coup, on s'intéresse à toutes les composantes du staff et on échange pour que le coach puisse faire son travail le mieux possible. Donc après, oui, effectivement, ben, quand on est analyste, on peut devenir recruteur ou on peut être après entraîneur adjoint. Voilà, c'est des choses qui se font, ça me choque pas.
Alors la toute dernière question cette fois, c'est vraiment la der des der, et après je vous laisse filer à votre vrai travail normal et ne pas répondre à mes questions. C'est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines? Alors soit vous avez un nom en particulier à me soumettre, de manière individuelle ou collective, c'est vous qui voyez. Soit ça peut être un métier. Quand on est dans un club, on côtoie un peu tous les métiers. Il y a des métiers qui sont fort méconnus, que vous aimeriez que les auditeurs puissent découvrir, redécouvrir, approfondir. Voilà.
Tout simplement, je pense qu'un métier qui est méconnu, ben, c'est celui de solution consulting avec le logiciel avec lequel on travaille. Il y a une personne avec qui on est en contact en permanence et qui nous forme, nous montre les nouvelles technologies, qu'est-ce qui va se passer. Lui aussi, c'est un métier de l'ombre. Il s'appelle David Dassonville et il travaille pour le logiciel de le Sport Code. Il mérite à être connu.
Et il est à la base de beaucoup de nos fenêtres de codage avec lesquelles on travaille tous les dimanches. Ouais. Et il est analyste avec la D2 de l'OM. Avec les féminines.
Et alors, le codage, c'est qu'est-ce qu'on entend par codage quand vous utilisez le mode codage sur des entraînements ou des matchs? C'est quoi?
C'est découper des séances de vidéo. C'est quand c'est une vidéo.
Tout simplement, on programme notre logiciel de façon à quand on appuie sur une touche de notre clavier, elle va savoir que ben, là, c'est un tir, un centre.
D'accord.
Un jeu dans l'espace, dans la profondeur. Et du coup, ça va se mettre dans des lignes sur notre logiciel et ça va créer des petites séquences.
Et peut-être déclencher d'autres boutons et pour d'autres événements, c'est un puissant instant fond.
D'accord, très bien. Eh bien, ça me fera une invitation supplémentaire à lancer. Merci Céline Mérif, Maxime Flamand, Jonathan Llorente pour votre disponibilité. Pour tout ce temps, on a dépassé l'heure que j'avais promise au MHSC, j'en suis désolé, mais j'en suis ravi aussi à la fois. Et je vous souhaite du coup une bonne saison avec le MHSC. Merci à tous les trois.
Merci, Joël.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.